Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militants militantes de la coordination des groupes anarchistes. On va vous reparler d'un rassemblement auquel on appelait à se joindre la semaine dernière. C'était devant l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. On vous rappelle un petit peu les faits. Le 21 janvier, un groupe de 7 salariés de Saint-Jean-de-Dieu a fait irruption dans les locaux syndicaux pour en découdre et intimider les militants CGT et Sud en réunion ce jour-là. Insultes, injures et menaces. À 18h30, en quittant le travail, un militant CGT est à nouveau agressé au portail. Du coup, il y avait un appel à rassemblement devant Saint-Jean-de-Dieu avant un CHSCT exceptionnel qui était aussi là cet après-midi-là. Il a été notamment question de la responsabilité de la direction clairement engagée, car elle incitait du coup ces gens qui militent. Enfin, du coup, la CGT Sud s'oppose au travail de 12 heures. Il y a des salariés qui sont pour, notamment les gens là qui sont venus menacer, et que du coup la direction avait clairement dit à mot couvert, avait incité les gens à faire les bons choix au niveau des élections professionnelles, à savoir ne votez pas pour CGT Sud parce que vous voulez pas que ce soit que les gens soient opposés au travail en 12 heures. Donc voilà, en même temps, quand on chauffe les gens à un moment donné, ils utilisent d'autres méthodes, ils viennent menacer. Donc il y avait ce rassemblement là et on y était, et du coup il y a une interview à suivre.
Voilà.
Actuellement, il y a une certaine catégorie de personnel qui souhaite travailler en 12 heures sur l'établissement. Les syndicats Sud et CGT, qui sont majoritaires, s'y opposent pour des raisons de santé, parce que c'est accidentogène et que c'est mauvais pour la santé. Donc nous, on refuse, on leur a expliqué, on les a rencontrés, le CHSCT les a rencontrés plusieurs fois pour leur dire que c'était pas possible pour ces raisons. Ils ne veulent rien entendre. Donc ils ont fait irruption jeudi dernier dans les locaux de la CGT. La CGT dans lesquels pour lesquels il y a deux militants de la CGT qui sont dans l'un des deux services concernés par la question des 12 heures. Ces sept agents de sécurité les ont menacés avec des propos virulents dans les locaux du local syndical, dans les locaux de la CGT. Et la personne s'est mise en accident du travail parce que c'est des pressions insupportables. Il faut imaginer que retourner dans le local avec ses collègues qui veulent travailler en 12 heures et qui leur mettent la pression, c'est absolument insupportable. Donc on en est là aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui il y a un CHSCT qui va traiter de cette question, que la directrice ce matin nous a confirmé qu'il n'y aurait pas les 12 heures dans l'établissement. On attend de voir ce qui va en être. Et puis il y a des enjeux, à mon avis, qui sont un peu plus occultes, qui est la manipulation d'un syndicat, voire de la direction, à l'encontre de ses agents pour changer les rapports syndicaux au sein de l'établissement.
Okay, le syndicat.
Alors c'est la CFTC, qui pourtant à l'échelle nationale serait contre les 12 heures, enfin de ce qu'on en sait serait contre les 12 heures, mais qui à l'échelle locale veut, pour des raisons purement électoralistes, s'approprier ce combat et rallier du monde à sa cause. Voilà.
Et donc la position de la direction sur ce qui s'est passé, c'est...
Alors la position de la direction, il y a eu une rencontre hier avec une délégation des syndicats départementaux au-dessus des CGT. La direction n'a pas pris de grandes décisions sur les actes qui ont été perpétrés, parce qu'il y a eu cette menace envers le collègue dans les locaux de la CGT, et l'agression, limite l'agression, parce que c'est un de ses collègues de travail qui l'a ceinturé, qui s'est rué sur un de nos collègues de la CGT qui partait en voiture et qui s'est retrouvé coincé là, ici au feu rouge. Donc il a eu peur pour ses collègues, donc ils l'ont ceinturé. Donc il y a quand même des actes graves. La directrice ce matin a reconnu que c'était des actes graves, qu'on ne pouvait pas tolérer ce genre d'agissement dans l'établissement, et que donc le dossier était clos. Nous ne demandons pas, sur le dossier des 12 heures, il était clos. Nous, on ne réclame aucune sanction. On demande à ce que la direction prenne ses responsabilités, fasse cesser les violences dans l'établissement, qu'on puisse travailler, que les collègues qui sont en arrêt, que le collègue qui est en arrêt puisse réintégrer son travail, et puis qu'il y ait une forme d'apaisement qui se retrouve un peu dans l'établissement, parce qu'aujourd'hui, ça devient absolument invivable. Voilà.
Et donc pour les auditeurs et auditrices, pour les suivants, avec ce qui s'est passé au CHSCT, il y aura peut-être un communiqué sur un site internet ou...
Alors, je crois que le plus simple, c'est effectivement... Nous, on a un site, mais on l'utilise très peu en ce moment. On est absolument débordé. Mais ce qui serait possible, c'est de nous retéléphoner mardi prochain, et on vous tiendra au courant de ce qui s'est dit, et on pourra faire suivre, en espérant que les choses s'apaisent vraiment. Voilà. On est inquiet. Voilà.
Donc voilà pour cette interview donc la semaine dernière devant donc le rassemblement à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Et du coup, on va enchaîner avec les luttes sociales.
Bah oui, j'en ai une petite pincée quand même pour cette semaine. Une pincée de lutte sociale. On va démarrer avec ce 22 janvier avec trois corporations donc étaient en lutte et leurs syndicats bien sûr, les salariés bien entendu, de l'industrie, enfin ces trois corporations sont de l'industrie auto, du ferroviaire et de la sidérurgie du Pas-de-Calais. On fait donc ils ont fait sentir tout ce petit monde a fait sentir son mécontentement, les mauvais vœux aussi en quelque sorte qu'il prodiguait. Elle était 200 personnes des entreprises Acker, 97 emplois menacés quand même, Areva, 150 emplois menacés, Valourec, 261, toutes des entreprises donc de la région du Pas-de-Calais pour dénoncer des alliances funestes également pour l'emploi, c'est-à-dire le recours massif à l'intérim. Toute cette colère sous les fenêtres, évidemment, de Xavier Bertrand à son nouveau domicile. Enfin, presque, puisque c'est seulement que la vice-présidente qui a reçu une délégation, donc du moins qui a daigné recevoir une délégation. À Chambray-les-Tours, donc près de Tours, dans l'Indre-et-Loire, des conditions de travail ici, c'était le 22 janvier, qui a déclenché la grève au restaurant Courtepaille du coin. Les horaires imposés par la direction sont intenables, l'organisation est à déplorer, salaire pauvre, incohérence dans la gestion du temps de travail, de la journée également, les employés donc sont considérés comme des Kleenex. La CFTC, et c'est remarquable ici, accompagnait ce mouvement de colère. À Civaux, dans la Vienne, c'est la centrale nucléaire qui, le 22 janvier, avait bloqué, enfin les accès à cette centrale étaient bloqués suite à un appel de la CGT sur un mouvement national. À Civaux, il a été suivi à 50% des 600 salariés. Opposition farouche aux concessions faites par le gouvernement à l'Union européenne, c'est-à-dire à Bruxelles, sur la, rappelez-vous, hein, sur la privatisation des barrages hydroélectriques et à la fermeture de centrales de production d'énergie. La hausse des prix de l'électricité également à l'horizon de 2020, ainsi que la baisse des effectifs de 5%, la réduction des budgets de la sous-traitance. Un piquet de grève a été mis en place et levé en fin de matinée. On attendait donc des réponses ce jour-là du comité central d'entreprise national, au niveau national. À Paris, juste une nouvelle au passage, mais c'était le 21, ça, hein. Il y aura d'autres, une autre nouvelle après, à la fin. Donc à Paris, cette nouvelle des grévistes de OMS Nettoyage, hein, prestataire de Paris Habitat, c'était au 20 janvier, donc avec un quatrième mois grévé, 41 personnes ont manifesté le 20 devant le siège de Paris Habitat dans le 5e arrondissement, car aucune avancée à cette date proposée par la direction de OMS. Idem du côté de l'organisme HLM public, Paris Habitat. La dernière médiation datait seulement du 11 décembre avec, ils avaient obtenu 6 euros de mieux mensuels et bruts proposés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Les grévistes ne touchent plus de salaire depuis ce 21 septembre, début de cette grève. La manif est allée ensuite sur l'hôtel de ville. Une délégation a été reçue. La lutte était soutenue et toujours soutenue à cette époque par la CNT Solidarité Ouvrière de Paris. À Roumazières-Loubert, c'est en Charente, répression sur syndicalistes, eh bien vous en voulez, en voici, en voilà, et du soutien aussi par contre. C'est le cas le 23 janvier pour un délégué syndical de l'usine Téréal qui fabrique des tuiles. Des tuiles, bah, il en tombe sur la tête des délégués syndicaux dans cette entreprise. Et ce 23 janvier, donc, un rassemblement était organisé à l'usine même, organisé par la CGT, et ça tombait bien parce que c'était le jour des vœux du PDG. Ce PDG qui en est à son quatrième délégué à qui il met des bâtons dans les roues. Délégué qui bataille en action syndicale bien sûr sur à la fois un mort au travail dans cette entreprise, des agressions sexuelles et des harcèlements, de harcèlements divers et variés, et une saisine également a été faite du côté des prud'hommes sur les conditions de travail. Une grève reconduite également, c'était le 29 janvier à Mouzillon, dans Loire-Atlantique. Hein? Donc c'est à la poste encore, hein, bien sûr, toujours, à l'unanimité, on 99% de grévistes. Alors les revendications ici, ben, c'est qu'un contrat de travail en CDD passe en CDI. Ça dure depuis 5 ans, ce CDD. Il y a aussi opposition à l'augmentation des semaines d'auto-remplacement qui passerait de 10 à 14, et des conditions de travail, bien sûr, notamment en ce qui concerne le poids de la publicité à distribuer dans les boîtes à lettres par les facteurs et les factrices. Ils aiment pas. Chez les ambulanciers et les ambulancières aussi, ça chie des bulles, et je dirais des bulles de savon, et pas des bulles de savon, je dirais. C'est à Béziers, par exemple, avec les ambulances de la compagnie Azur, 13 salariés en grève sur 18 pour dénoncer le planning qui est mal fait, très mal fait, la sécurité fantôme, les conditions de travail, les rémunérations et les représailles, encore une fois, contre les syndicalistes. Et ici, c'était la CGT qui menait encore cette bataille. Et puis, également à Bordeaux, avec les cheminots de Sudrail qui ont occupé le comité d'entreprise d'Aquitaine par solidarité et à la pour la réintégration d'une salariée de l'entreprise Honnête de Agen. Honnête, c'est cette entreprise aussi qui fait des misères à ses employés, entreprise de nettoyage encore. Elle avait donc, cette employée avait traversé... elle avait été obligée de traverser une voie pour passer de l'autre côté. Voilà. Donc, c'était une faute professionnelle, apparemment. Elle a été licenciée par Honnête, tout simplement. Donc, il y avait 250 personnes qui étaient présentes à ce soutien. Et puisqu'on est dans le nettoyage, eh ben, ces entreprises prestataires, mais néanmoins esclavagistes, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des news, des nouvelles, donc toutes fraîches de OMS Synergie. Donc, ce prestataire, est précisément de l'office HLM de Paris Habitat, dont le personnel a tenu donc 4 mois de grève, 41 personnes qui ont obtenu non pas un gain de cause total, mais quelques avancées et un protocole d'accord qui a été signé. Donc voilà, satisfaction, on peut poser un point d'interrogation. En tout cas, oui pour les grévistes et leur soutien, je rappelle, hein, la CNTSO est dans les quartiers populaires du 13e, du 19e et du 20e arrondissement. Toutes les revendications n'ont pas atteint leur but quand même. Par exemple, versement du salaire qui sera toujours entre le 11 et le 13 de chaque mois. Une qualification qui amènera, je l'ai dit tout à l'heure, 6 euros de mieux par mois, brut. Sinon, une partie des revendications qui avait, c'était vraiment une liste énorme que j'avais donnée en détail, mais que je redonnerai pas là, c'est beaucoup trop long, ont été donc plus ou moins acquises. Paris Habitat avait quand même menacé OMS de péter le contrat, et la CGT Hôtel de Prestige et Économie, ce qu'on appelle la CGT HPE, a pris le train en marche de cette lutte. Et il y avait aussi, je crois, à un moment donné, le syndicat Sud. Cahors, maintenant, c'est dans le Lot, hein, comme chacun sait, avec une grève au collège Olivier de Magny. 90% des enseignants et enseignantes sur une grève de 24 heures. Il et elle dénoncent avec les parents d'élèves la hausse des effectifs dans les classes de 6e. Il y a eu de l'effervescence aussi à Nice dans une enseigne Carrefour. Les salariés se sont mis en grève ce 29 janvier pour la défense de leurs droits à retraite. Il et elle protestent contre le gel de leurs années d'ancienneté, ce qui va faire dégringoler considérablement leurs indemnités de départ à la retraite. Alors, c'est des accords qui ont été renégociés et appliqués dès le 31 décembre 2015. Exemple, pour une présence de moins de 9 ans d'ancienneté, les gens qui ont moins de 9 ans d'ancienneté perdront tout. Et pour ceux qui ont un peu plus de 10 ans de présence, au 31-12-2015, ils en perdront une partie. Alors, ces mesures ont été prises par la direction avec l'accord de syndicat, le syndicat FGTA-FO, Donc c'est une branche du syndicat FO et de la CGC. C'est de là qui ont donc signé avec la direction. Les grévistes mentionnent également dans ce conflit les conditions de travail désastreuses, baisse de l'effectif, le non-remplacement des postes inoccupés, une polyvalence obligée au détriment donc des conditions de vie des salariés, du matériel usagé, les conventions collectives non respectées, carrière qui stagne, idem pour les salaires, avantages sociaux qui fondent chaque année, pouvoir d'achat donc diminué, etc., etc. Je m'arrêterai là. Et pendant ce temps, bah, le PDG, un certain monsieur Georges Plassat, hein, qui est le PDG, si je ne m'abuse, de Carrefour, qui en a repiqué pour 3 ans à son poste. Il est bon ce poste. A augmenté ses émoluments à 3,7 millions d'euros à l'année. A négocié une retraite chapeau de 933 750 euros par an pour 50 présences. La grève ouvrière
comme
est menée
monde,
par...
Non.
Comment ?
C'est comme tout le monde, non ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est ce qu'on va avoir, nous.
Hein. Toucher, enfin,
moi, personnellement, c'est ce que j'ai, moi, ma retraite.
C'est ce qui me semble.
Voilà. Donc, la grève ouvrière a été menée, encore une fois, ici, par la CGT et, faut le souligner, la CFDT, quand même. Voilà.
Ça dépend des fois.
Ça dépend des branches. Ça dépend du temps. S'il y a du vent.
Si... du coup, on va pas vous faire une deuxième pause musicale parce que c'est déjà un peu tard. On a commencé un peu à la bourre, donc du coup, on va... profiter du temps qui nous reste pour encore vous blablater des choses. On va vous lire le communiqué qui est tout frais, tout chaud de la CGA par rapport du coup à la condamnation dimanche soir à la grâce de Jacqueline Sauvage. Donc je vais vous laisser lire ça.
C'est parti. Ah,
vous voyez des gens.
Ouais. Jacqueline Sauvage a subi les violences physiques, sexuelles et psychologiques de son mari qui violait et battait également ses 3 filles. En septembre 2012, le lendemain du suicide de son fils, elle tire sur son époux. Condamnée à 10 ans de prison ferme, elle vient d'obtenir une grâce présidentielle partielle. Cela lui permettra d'être libérée dans quelques mois, même si les étapes sont encore nombreuses. Examen de dangerosité, avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, passé devant le tribunal d'application des peines, probable port d'un bracelet électronique. Nous nous félicitons de cette décision, qui est le résultat d'une mobilisation féministe importante et payante dont le signal est... Les femmes vivant des violences sexistes sont légitimes à ne plus subir, à ne pas se laisser faire. Cette décision n'efface pas pour autant les presque 50 années de vie de Jacqueline Sauvage et celle de ses enfants détruites par son mari. Ce qu'elle a subi au quotidien relève de la domination masculine qui s'exerce dans toute la société, opprime les femmes et démolit la vie de très nombreuses d'entre elles, que ce soit par leur exploitation, par leur harcèlement ou par toutes les violences physiques et psychologiques à leur encontre, par le viol, le meurtre... La société n'empêche pas les hommes de commettre ces crimes. Au contraire, elle est responsable en véhiculant le système patriarcal caractérisé par le pouvoir que les hommes exercent sur les corps et les vies des femmes. Cette décision n'efface pas la condamnation de la justice qui n'a pas pris en compte les sévices infligés par le mari bourreau de Jacqueline Sauvage, suivant les fondations de ce système patriarcal. La condamnation à 10 ans de prison ferme, en infligeant une peine supplémentaire à une victime, vient légitimer cette violence et renforcer le système de domination masculine. À ce titre, au-delà du cas de Jacqueline Sauvage, nous dénonçons toute criminalisation de l'autodéfense des femmes face aux viols et aux violences. Notre société, qui prétend avoir atteint l'égalité homme-femme, démontre ainsi que derrière la belle vitrine des déclarations de principe se cache une réalité plus sordide, celle de la création d'agresseurs et de la complaisance à leur égard. Contrairement aux stéréotypes qui décrivent les violeurs comme principalement pauvres et étrangers, stéréotypes renforcés après les agressions de Cologne, le viol et les violences conjugales sont des phénomènes de masse dans la société dont les auteurs appartiennent à tous les milieux et à toutes les classes sociales. Les auteurs de ces viols et violences, particulièrement quand ils sont blancs et bourgeois, bénéficient d'une complaisance et d'une tolérance massive qui sont le résultat d'une culture pro-viol dans laquelle les victimes sont désignées comme des coupables, rendues responsables de leur agression en lieu et place de leur agresseur. Rien n'excuse le viol ni les violences conjugales, quels que soient les auteurs, il ne doit pas y avoir de complaisance avec les agresseurs. Toutes les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, doivent être pointées, dénoncées et combattues dans la sphère publique, rue, travail, transport, etc. Comme privé, la famille, le couple, les relations. Pour ce faire, une riposte sociale contre le système de domination masculine doit être menée. Face au patriarcat, des mouvements de lutte féministes sont nécessaires contre l'exploitation et l'oppression des femmes, leur auto-organisation, par exemple pour créer des espaces d'écoute, de soutien et de sécurité, pour s'entraider et se défendre face à toute agression, et un des moyens de lutter à développer et soutenir. Ce sont par les luttes collectives que nous ferons reculer les inégalités et les violences et avancerons vers plus de droits et d'émancipation.
Donc voilà pour communiquer. Je voulais juste revenir du coup par rapport aux quatre étapes qui restent encore à passer pour Jacqueline Sauvage, parce que du coup on a l'impression que elle est graciée et que c'est demain elle est dehors, quoi. Et ben non, en fait non. Donc je vais revenir sur les quatre étapes qui ont été un peu dites sur le communiqué. Donc Jacqueline Sauvage devra tout d'abord donc se soumettre à un examen de dangerosité. Ce passage au microscope, entre guillemets, de son dossier, cette évaluation psychologique et médicale doit durer 6 semaines et ne peut se produire que dans l'un des 3 centres nationaux d'évaluation, CNE français. Il se trouve à Fresnes, dans le Val-de-Marne, à Réau, en Seine-et-Marne, et à Séquedin, en Picardie. Lorsqu'une place aura été trouvée dans un quartier pour femmes de l'un de ces CNE, Jacqueline Sauvage devra être transférée depuis sa prison de Saran, dans le Loiret. À la fin de son examen de dangerosité, elle y sera réenfermée. Ça, c'est la première étape. Vous voyez déjà qu'il y a déjà un petit délai. Ensuite, il y aura donc l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, présidée notamment par le préfet du département et un bâtonnier. Cette commission, CPMS, donc, devra décider au vu des expertises de dangerosité si elle est favorable à la libération de Jacqueline Sauvage. Ces commissions sont tellement engorgées que les décisions prennent en général entre 6 mois et 1 an. Donc voilà, il faut noter que l'avis donc de la CPMS peut être défavorable, donc ce qui remettrait tout en question en fait. Oui, ensuite, la troisième étape, donc c'est le tribunal d'application des peines, muni des résultats de l'examen de dangerosité et de l'avis de la CPMS. Les avocats de Jacqueline Sauvage iront plaider leur dossier devant un tribunal dédié. Si le juge d'application des peines, le JAP, décide de libérer la détenue, le parquet pourra faire appel. Si ce recours est fait dans les 24 heures, Jacqueline Sauvage restera en prison. Et ensuite, les conditions de la sortie de prison. En cas de libération conditionnelle, Jacqueline Sauvage pourrait se voir obligée de porter un bracelet électronique, vivre sous un régime de semi-liberté ou bien bénéficier d'un placement à l'extérieur. Donc voilà, elle portera au moins un bracelet électronique pendant 1 an. Donc voilà, donc c'est pas la grâce, voilà, toute faite, toute gentille comme ça, fait, voilà, ouais.
Sous condition.
Il s'en est sorti un petit peu grâce du coup, notamment au mouvement féministe et aux mobilisations qui ont permis de faire un peu de bruit autour de cette histoire, et donc du coup il a dû lâcher du lest, parce que mine de rien il y avait des mobilisations, donc quand ça gronde, ils écoutent des fois un petit peu, mais voilà, il est pas non plus allé au bout du truc, hein, voilà, au minimum elle restera presque au moins 6 mois encore en taule, quoi.
Ouais, facile.
Donc voilà. Puis autrement, sur le même sujet, on vous déconseille d'aller au Kansas. Enfin, moi, personnellement, ça ne me serait pas venu à l'idée. Mais voilà, vous non plus. Notamment parce que battre sa femme est désormais légal au Kansas. Donc voilà. La loi punissant les violences domestiques vient d'être abrogée à Topeka, capitale du Kansas. La raison ? Un conflit de responsabilité entre le comté, donc l'administration d'État, et la ville. À l'origine, une coupe budgétaire de 10% vient amoindrir le budget du comté. Une situation récurrente et commune à de nombreux États du pays, conséquence d'une crise qui s'infile dans les enveloppes des gouvernements locaux. Problème, comment compenser ces pertes de budget ? Et comme d'hab, le procureur a la réponse. La moitié des plaintes traitées par le tribunal sont des cas de violence conjugale, quand même déjà, quoi. Il suffit donc de les placer sous la responsabilité de la ville de Topeka. Et c'est là que ça coince. Dan Staley, actuel maire de la ville de Topeka, n'est pas en mesure de traiter ces cas. Nous n'avons pas assez de procureurs, de tribunaux, ni de personnel pour prendre soudainement en charge ces victimes. La solution est ensuite purement politique. La ville décide donc de décriminaliser les violences domestiques pour obliger le comté à en prendre la responsabilité. À 7 voix contre 3, mardi dernier, la loi était purement et simplement supprimée. Aujourd'hui, la seule peine risquée en cas de violence conjugale est donc l'impunité. Depuis le début du conflit, 30 personnes ont été arrêtées pour des cas de violence domestique. Toutes ont été libérées, faute de pouvoir comparaître. Pour l'instant, aucun arrangement entre les deux parties n'a été trouvé. En France, 156 femmes meurent sous les coups de leurs conjoints chaque année. Le gouvernement avait donc lui décidé de faire de la lutte contre la violence conjugale une priorité nationale. En juillet 2010, il a reconnu le harcèlement moral comme un délit. Bon, on va voir ce que ça donne. Et voilà, il vaut mieux pas aller au Kansas tout de suite, hein. Et entre-temps, notre nouveau ministre de la Justice, donc il s'appelle Urvoas, monsieur, je n'ai pas son prénom. Et donc, il revient un petit peu sur le travail du médiateur pénal. Voilà, c'est aussi pour désengorger les tribunaux. Et vous allez voir notamment dans quel cas c'est. Donc là, on le cite. Par contre, la loi comprend une disposition intéressante, la possibilité d'instaurer des mesures de justice restaurative à chaque stade du procès pénal. Nous verrons comment cette disposition se traduira dans les faits, notamment dans le domaine de la médiation pénale. Si j'ai beaucoup écrit sur le sujet, j'ai aussi eu l'opportunité, lorsque j'étais professeur à l'Université de Pau, d'être médiateur du procureur de la République pendant 6 ans, chargé des questions familiale, violence conjugale, non présentation de l'enfant, abandon de famille. Je sais par conséquent que ces mesures peuvent permettre de rétablir le lien social et de responsabiliser les protagonistes, mais aussi de désengorger les tribunaux. Réponse des effrontés. Voilà. Les victimes seront incitées à se rabibocher avec leur nouveau bourreau, après avoir porté plainte pour violence conjugale pour, entre guillemets, désengorger les tribunaux et, entre guillemets, préserver le lien social. C'est beau, non, déconner avec leurs victimes. Donc voilà comment inciter non plus à ne pas porter plainte. Voilà, 56. On va continuer un petit peu avec un témoignage. Parce qu'au Québec aussi, voilà, un étudiant qui dénonce l'exclusion des homosexuels, des dons de sang et de cellules souches. Le jeune homme âgé de 18 ans qui étudie les sciences de la nature, lors d'une collecte de sang tenue il y a quelques semaines, Emma Québec a refusé de l'inscrire au registre des donneurs. Ce jeune homme, donc Jérémy Dubé, considère qu'il s'agit de pratiques discriminatoires et s'engage à faire changer les choses. Je me suis proposé pour donner des cellules souches et je savais que je n'avais pas le droit de donner du sang. Je connaissais le règlement, mais je m'étais informé auprès de la dame et elle m'avait dit que les règlements étaient différents selon si c'est un don de sang ou don de cellules souches. Puis cette semaine, j'ai reçu un message comme quoi les homosexuels n'avaient pas le droit de donner des cellules souches non plus. Jérémy estime qu'il est discriminatoire de penser que tous les homosexuels sont atteints de l'hépatite C ou du VIH, que c'est toute la même gang, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas le droit de donner parce qu'ils vont rendre malade toute la population. Faudrait peut-être qu'ils remettent leurs statistiques à jour. En quoi un homosexuel en couple est plus à risque qu'un hétérosexuel qui a plusieurs partenaires et qui a déterminé que les gays avaient maintenant des pratiques sexuelles plus à risque que les hétérosexuels, se demande encore le jeune homme qui a l'intention de communiquer. Donc on verra ce que ça donne là-dessus. Pour essayer de faire changer les choses, il faut rappeler que le 21 décembre, les États-Unis ont également supprimé l'interdiction faite aux hommes homosexuels de donner leur sang en la remplaçant par l'obligation d'une abstinence sexuelle d'un an. C'est assez magique. La France l'a fait aussi. Ça veut dire que... mais en France, c'est pareil. Voilà, cette mesure intervient dans la foulée de décisions similaires en Australie, au Japon et en France, où le don devrait être ouvert dès le printemps aux gays et bisexuels n'ayant pas eu de relations sexuelles durant les 12 derniers mois. Enfin, ça fait rigoler, mais quand même, quoi. Ça veut dire que pour les hétérosexuels, ils peuvent donner leur sang tant qu'ils veulent, ils peuvent faire l'amour tous les jours, voire plusieurs fois par jour, avec plein de personnes différentes.
Voilà.
Mais si tu te déclares homosexuel ou bisexuel, et ben, pendant 12 mois, c'est abstinence pour pouvoir donner son sang. C'est assez formidable. Voilà, 20h58, et je voudrais juste finir par une petite initiative que je trouve pas mal. À Besançon, c'est le lancement du projet Cactus. C'est le collectif antifasciste de Besançon, donc qui a annoncé il y a peu la naissance de ce projet-là. Un collectif antiraciste dont l'objectif est de sensibiliser à la présence dans nos quartiers de personnes ayant de plus en plus des propos et des comportements racistes et xénophobes. Et l'ambiance réactionnaire et sécuritaire du moment ne fait rien pour améliorer les choses. Il propose ainsi, et j'aimerais bien, on verra du coup si l'idée peut être reprise dans d'autres villes, et notamment à Lyon, sur le modèle de ce que des antifascistes ont fait en Allemagne, aux boutiques, bars et restaurants, de coller sur leur vitrine un autocollant arborant le slogan « Ici, pas de racisme ». Et c'est représentant un sympathique cactus en pot. Voilà, la soirée de lancement, c'était ce samedi 30 janvier à Besançon. On espère qu'il y a eu du monde. On espère qu'ils ont fait un peu de thunes pour pouvoir, les mettre ça un peu partout. On sait que l'initiative a été faite aussi du côté de Perpignan à un moment donné. Lyon, on lance ça quand on veut, On reprend vite fait, du coup, peut-être les rendez-vous.
Absolument. J'allais t'y inviter d'ailleurs.
Très bien. Demain, 18h, donc rendez-vous, place Bellecour, rassemblement en solidarité des salariés de Goodyear, donc 18h place Bécour et ça part en manif.
On dit Goodyear.
Donc venez nombreux et nombreux, c'est important d'être solidaires là avec ces salariés là, donc compris de la ferme, pour avoir séquestré leurs cadres. Les cadres, ils n'ont même pas porté plainte, l'entreprise non plus, c'est le procureur public qui s'est décidé de faire ça tout seul. Ça c'était jeudi. Vendredi, on a dit à l'atelier des canulars à partir de 19h30.
Soirée belge. Frites et Dikanek.
En soutien au projet de centre social autogéré.
C'est ça.
Samedi 14h, c'est rendez-vous place Jean Massé pour une manifestation contre l'état d'urgence. On vous invite à venir. Il y aura sûrement d'ailleurs un petit cortège rouge et noir. On vous invite à venir nous voir là-bas. On finira, nous, par un bout de permanence à la Plume Noire suite à la manif, qui finit à Place Bellecour ou Autéreau, je crois. Donc, on n'aura plus qu'à monter. Autéreau, on vous invite aussi à venir. Dimanche, on a dit que c'était à la CNT. Alors, j'ai pas l'heure, mais c'est dans l'après-midi, avec l'invitation d'un militant, tu l'as dit mieux que moi tout à l'heure.
De l'IYY.
Formidable. Pour nous parler des luttes sociales actuelles aux États-Unis, on vous donnera aussi rendez-vous les lundis soirs pour les cours de langue à la Plume Noire. N'hésitez pas, donc, comme d'habitude, si vous avez des gens intéressés, qu'ils viennent. Si vous voulez donner un coup de main, venez. Si vous avez du matos, quel qu'il soit, qui puisse nous aider à faire ces cours, venez avec. Donc voilà. Et puis les permanences mercredi et samedi.
Absolument. Le mercredi, 17h à 19h.
Et le samedi?
de 15h à 19h, sauf le samedi où on a
on fait un peu plus
ce samedi.
Quand il y a un manif,
on fait un peu plus le samedi, on est en pleine forme, c'est la fin de semaine et tout et tout. Bon, non, mais on discute un petit peu en attendant que la lumière du frigo qui est juste derrière nous
s'installe
aussi bien en émission que physiquement. Donc, s'installe et on va peut-être passer le générique de fin. On vous dit à la semaine prochaine, à mercredi, même heure, même endroit. Voilà.
C'est ça, comme d'hab.
N'hésitez pas à écouter l'émission donc sur le blog de l'émission.
À la semaine prochaine ou à samedi, déjà.
On va faire tourner. Ouais, puis on va vous voir demain dans la rue, vendredi à l'atelier des canulars, samedi dans la rue.
Différents
rendez-vous.
Dimanche
à la CNT, enfin, partout, quoi.
Parlez pas tous en même temps, les amis.
Ouais, ouais, parce
que je ne vais pas parler.
Levez la main quand
petit générique.
Mais enfin, quoi, je vais vous faire votre éducation, quoi. Allez, ciao à tous et à toutes.
Salut.